Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez graphite94.net ou sur le web graphite.net et cet après-midi on se retrouve pour la dernière émission consacrée aux travaux des étudiants de WE01, donc une matière à l'UTC qui questionne le numérique, les grandes questions du numérique et du web contemporain. Donc là, aujourd'hui, on est en direct avec deux étudiantes, Eugénie et Lise. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et ben c'est très bien de terminer par votre émission, parce que tout au long là, de cette série d'émissions, notamment par rapport aux intelligences artificielles génératives, la question de la dépendance, et puis de, en fait, ça rend quand même plus efficace, mais en même temps, on délègue, elle a été abordée un petit peu en filigrane, et vous allez notamment traiter un concept qui va permettre d'éclairer aussi cette question et d'apporter d'autres pistes de réflexion. Donc merci pour cette proposition, et puis c'est à vous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons vous parler des médias numériques. Notre travail s'appuie sur un article du journaliste et développeur franco-allemand Nicolas Kaiserbrill. Son article, publié le 31 janvier 2018 sur son blog, pose la question suivante. Comment l'industrie médiatique a raté le virage des données et du numérique ? En mettant en lien les concepts de prolétarisation et de capitalisme de surveillance avec l'article, nous expliquerons comment l'échec de la transition numérique des médias a été l'occasion pour les grandes plateformes d'influencer notre consommation de l'information par le contrôle de la chaîne de distribution et de monétisation de la donnée.
Dans son texte, Nicolas Kaiserbrill retrace la trajectoire paradoxale des médias traditionnels face à l'essor du numérique dans les années 2000. Il explique d'abord que dès 1995, la plupart des noms de la presse quotidienne a rejoint le web, soit 3 ans avant la création de Google, 6 ans avant Wikipédia et 10 ans avant YouTube et Facebook. L'auteur se demande alors pourquoi ces médias, pourtant pionniers sur le web, ont perdu leur position dominante avec l'avènement des technologies numériques. Une question légitime, car les médias semblaient en bonne position pour prospérer. Non seulement leur départ sur le web s'est fait sur les chapeaux de roue, mais en plus, ils bénéficiaient déjà, je cite, de profits débordants grâce à leur monopole. Et pourtant, les médias sont devenus aujourd'hui les prestataires des géants du web. En moins de 2 décennies, la plupart des médias sont devenus dépendants des plateformes qui contrôlent l'accès à l'audience et au marché publicitaire, reléguant les médias au rôle de simples fournisseurs de contenu. Mais Nicolas Kaiserbrill n'accuse pas leur absence en ligne. Selon lui, l'échec de la transition numérique des médias tient plutôt au fait qu'ils n'ont pas su repenser en profondeur leur modèle économique. Kaiserbrill explique qu'avant Internet, les médias tenaient plusieurs rôles. Informer, divertir, proposer des petites annonces. Tout cela demandait beaucoup d'investissement. Donc naturellement, les entreprises étaient plutôt de grandes structures dont la rentabilité était assurée par des monopoles locaux. Mais sur le web, ces logiques sont complètement bouleversées. Les petites annonces appartiennent maintenant à des plateformes spécialisées comme Le Bon Coin ou eBay, qui sont bien plus efficaces que les journaux papier. Quant au monde de la publicité, il s'est rapidement tourné vers Google et Facebook, qui dominent déjà le marché numérique. En fait, d'après l'auteur, les médias ont échoué à repenser leur cœur de métier en se contentant de calquer leur format web sur leur format papier. Ils n'ont pas compris que la structure du web impliquait non pas la consolidation des services, mais leur fragmentation selon des communautés spécialisées. La tendance générale chez les journalistes a même été de rejeter la logique des plateformes, même si bien sûr d'autres médias ont anticipé ce virage vers le numérique. Globalement, cette incapacité à se réinventer a provoqué de grandes crises. Entre restructuration et faillite, certains médias historiques ont définitivement disparu. Kaiserbrill montre enfin que les médias ont manqué un tournant décisif du numérique. Presque aucun ne s'est transformé en fournisseur de données. Ils ont continué à produire des contenus, mais sans exploiter leurs informations sous forme de bases de données ou d'analyses revendables. A l'inverse, des acteurs comme OptageSports se sont spécialisés dans la collecte, le traitement et la revente de données sportives, devenant ainsi indispensables aux médias. Face à la perte de leur pouvoir économique et publicitaire au profit des plateformes, les médias ont alors adopté une nouvelle stratégie. Ils ont intenté des actions en justice contre les géants du web, notamment Google, qui a été accusé de capter la valeur de leur contenu. Cependant, selon Kaiser-Brill, ces procès débouchent le plus souvent sur des accords financiers qui ne remettent pas en cause la domination des plateformes. Google continue ainsi de contrôler l'attention et le marché publicitaire, tandis que les médias deviennent dépendants des aides et subsides versées par les GAFAM.
Alors, pour mieux comprendre l'article de Kaiser-Brill, nous allons aborder le concept de capitalisme de surveillance. L'économie de surveillance se développe dès les années 60 avec l'informatisation, mais était très largement popularisée par Shoshana Zuboff, une professeure d'Harvard et autrice de l'ouvrage « L'âge du capitalisme de surveillance » paru aux éditions Zulma en 2019. Selon elle, le capitalisme de surveillance est un système économique basé sur la collecte des données de l'ensemble de la population. Pour mieux appréhender ce concept, nous allons tenter de le comparer au capitalisme industriel. Ce dernier utilise des matières premières extraites de la nature pour les faire transformer à plus bas coût qui ne sont revendues. C'est le principe de plus-value. Dans un tel système, nous sommes donc les clients à qui les entreprises vendent les marchandises. Le capitalisme de surveillance, lui, fonctionne sur le même principe, sauf que cette fois-ci, nous ne sommes pas les acheteurs, mais bel et bien les produits, comme l'exprime le fameux proverbe « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Pour être plus précise, nous sommes surtout les objets à partir desquels sont extraites les données que les GAFAM revendent à des entreprises privées. Au final, ces données peuvent être comparées aux matières premières du capitalisme industriel que les usines des GAFAM récupèrent gratuitement pour ensuite les revendre à des acteurs privés avec une plus-value. Les rôles se sont donc inversés, nous ne sommes plus des consommateurs mais plutôt des consommables, car désormais les entreprises se disputent nos données personnelles. Malgré tout, un point reste encore flou, car on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière l'idée de données personnelles. En effet, ce terme de personnel n'est pas forcément représentatif. Il s'agit surtout de l'ensemble des données nominatives récoltées, qu'elles soient intimes ou publiques, tant qu'elles peuvent se vendre et profiter aux GAFAM. Ces plateformes annonceuses ont alors un double rôle. D'un côté, elles tentent de récolter un maximum de ces données pour pouvoir faire des prédictions à vendre à leurs clients, mais de l'autre, elles cherchent également à cerner notre comportement pour cibler au mieux les publicités proposées et finalement nous pousser à acheter. Pour cela, elles tentent de prédire ce qui nous intéresserait à l'aide de ces données nominatives qu'elles ont recueillies. Or, plus le ciblage publicitaire est précis, plus elles font de la plus-value. Elles finissent donc par influencer notre comportement en transformant les technologies numériques en puissants outils de persuasion, ceci afin d'influencer les comportements des consommateurs et améliorer leurs prédictions. D'après Zuboff, si l'on veut rendre ce capitalisme de surveillance moins menaçant pour notre liberté, il faudrait donc lutter contre le conditionnement des individus mis en place par les géants du web et de la publicité. Alors cela peut passer par exemple par le refus des cookies, autre bien sûr que ceux nécessaires au bon fonctionnement des sites que l'on visite, dans le but d'empêcher les entreprises d'établir un profil de notre comportement et de personnaliser les annonces.
Si l'on reprend l'article de Kaiser-Brill, on retrouve donc l'idée d'un monde médiatique dominé par les plateformes numériques. Lire un contenu, cliquer sur un lien, faire défiler un fil d'actualité, publier, réagir avec un like, toutes ces pratiques a priori ordinaires cessent aujourd'hui d'apparaître comme de simples gestes de navigation. Ce sont désormais de véritables opérations productives. Chacune de nos réactions sur le web peut à tout moment être interprétée comme un signe comportemental, susceptible d'être revendu et analysé pour améliorer les dispositifs de recommandation. Je cite Kaiser-Brill, « La plupart des médias ne savent ainsi toujours pas s'ils sont là pour produire de l'information ou vendre de la publicité à des annonceurs. » En insistant sur ce point, l'auteur donne à voir ici le premier maillon de la chaîne de valeur, la transformation de l'attention humaine en matière première informationnelle. Cette analyse recoupe directement la notion de capitalisme de surveillance, puisque Kaiser-Brill avance entre autres que, contre toute attente, les plateformes ne sont pas pensées pour être des outils de diffusion de l'information. Au contraire, elles sont conçues pour inciter à l'engagement sur le web, créer des effets de viralité, capter, centraliser, extraire et valoriser des données comportementales afin d'améliorer leur prévisibilité. Le souci, c'est que tous ces mécanismes algorithmiques restent très opaques pour l'utilisateur, qui est en permanence soumis à la reconfiguration de son environnement informationnel. Sa liberté de navigation est encadrée par des structures invisibles, ce que Kaiser-Brill met en lumière en déclarant « les fournisseurs d'accès peuvent choisir ce que les clients consomment ». En effet, bien que les interfaces revendiquent être neutres, elles sont bien le fruit de choix techniques et économiques qui intègrent progressivement les usagers dans un système industriel de production de données. Mais les créateurs de contenu sont tout autant contraints par les plateformes. Ils sont obligés de produire des formats courts et des titres accrocheurs. Donc, ils prennent évitablement part à ce système qui ne vise que l'optimisation des flux de données. Enfin, Kaiser Brill affirme que, alors que l'on pouvait, dans les années 2000, toucher une audience parce que son contenu était de meilleure qualité que celui des concurrents, on atteint aujourd'hui son audience en payant l'un des deux gardiens de l'attention, c'est-à-dire Google et Facebook. Comme l'avait décrit Zuboff, le capitalisme de surveillance est en fait marqué par une inversion des rôles par rapport au capitalisme industriel. C'est exactement ce qui se joue ici. Tout comme la qualité informationnelle ne prime plus face au marché de l'attention, le consommateur n'est plus le client, mais la source d'où est extraite la valeur économique des plateformes.
Alors pour mieux appréhender l'article de Kaiser Brill, il est intéressant de développer un deuxième concept, celui de prolétarisation. Comme l'expliquait le philosophe Bernard Stiegler, je cite, « Le prolétariat ce n'est pas la classe ouvrière, ce n'est même pas les gens pauvres ». En fait, dès le départ, Marx a présenté les prolétaires comme étant tout, je cite, « ceux qui perdent leur savoir parce qu'il est extériorisé dans des machines ». Ce concept de prolétarisation a ensuite été reformulé par le philosophe Bernard Stiegler et s'inscrit dans la continuité de la conception marxiste de la prolétarisation. Le raisonnement de Stiegler est le suivant. Il voit dans le prolétaire marxien la première figure qui manifeste la contradiction entre une machine devenue technologie industrielle et la capacité des individus à se construire comme sujet, à la fois individuellement et collectivement. Le prolétaire est donc désindividué, privé de ses savoir-faire et coupé de ses sociabilités traditionnelles. Toujours selon Stiegler, à l'ère du marketing, cette destruction des possibilités de l'individuation touche à la fois les ouvriers et l'ensemble des consommateurs. Il en résulte ainsi ce que Stiegler appelle une crise de l'esprit. C'est cette crise de l'esprit qui caractérise le capitalisme computationnel du XXIe siècle, parfois aussi appelé capitalisme cognitif. Elle se manifeste justement par une forme de prolétarisation, c'est-à-dire, je cite, « la perte des savoirs théoriques des concepteurs remplacés et désintégrés par les calculs intensifs opérés sur les big data par les algorithmes ». À la différence de ce que l'on pourrait penser, le prolétaire n'est pas uniquement celui qui accomplit un travail manuel de production, mais il est en réalité incarné par chaque consommateur qui finit par être dépossédé de ses savoirs, ici ses savoirs intellectuels. Concrètement, cette nouvelle forme de prolétarisation touche nos capacités cognitives, c'est-à-dire nos facultés de penser, de critiquer, de mémoriser, de hiérarchiser et d'interpréter des informations. De plus, la perte de nos savoirs intellectuels survient toujours lors de l'utilisation de dispositifs techniques, des algorithmes par exemple, qui ne permettent pas que l'on intègre les savoirs qu'ils mobilisent ou les logiques qui les structurent. C'est exactement ce qui arrive à l'individu qui, en naviguant sur Internet ou en utilisant des IA, est confronté à des résultats imprécis ou faux, déduits de sources hétérogènes selon des calculs complexes qu'il ne maîtrise pas. Il obtient une masse de résultats inintelligibles et finit par faire aveuglément confiance à la machine. Dans ce cas, il ne réfléchit pas et n'a aucun moyen de sélectionner et interpréter l'information, puisque la machine le fait déjà pour lui. Mais il est important de nuancer. Certes, les technologies et réseaux numériques rendent possible une surveillance et une manipulation massive des foules connectées, mais comme le rappelle Stiegler, l'extériorisation des savoirs dans les supports techniques est nécessaire, et elle n'est dangereuse que si les individus n'ont pas accès aux savoirs incorporés dans les supports numériques.
Dans son article, toujours, Nicolas Kaiser Brill décrit les médias numériques comme les prestataires des plateformes et des géants du web. Les contenus sont sélectionnés et diffusés de façon automatique à tel point que, je cite, « la numérisation a modifié l'essence même des métiers pratiqués par les médias ». Notamment, et je cite toujours, « pour attirer de grandes audiences, rien ne vaut le spectaculaire, tant pis si l'information n'est pas vraie ». Si l'on reprend le concept de prolétarisation que Lise vient d'expliquer, on comprend donc que l'on assiste là à une dépossession progressive des capacités intellectuelles et critiques, non seulement des utilisateurs, mais aussi des créateurs de contenu. En effet, comme la prolétarisation désigne à l'origine la dépossession d'un savoir-faire, si on la transpose au domaine de la cognition, elle signifie alors que l'on externalise nos capacités intellectuelles. Concrètement, ce qui se passe, c'est que l'on confie notre capacité à rechercher l'information, à la hiérarchiser et à l'analyser à un système externe. Par ailleurs, depuis les années 2000, Par ailleurs, depuis les années 2000, le glissement de l'information vers le divertissement a pris de l'ampleur sur le web, entraînant toutes les rédactions dans une course effrénée aux pages vues. Les créateurs de contenu ont ainsi adapté leur production aux logiques des plateformes, ce qui constitue dès lors une forme de standardisation cognitive. Ainsi, le propos d'un auteur ou d'une autrice ne lui appartient pas vraiment, puisque ce sont les contraintes externes qui dictent les formes de son raisonnement. La création intellectuelle est donc au service des stratégies des plateformes, et en particulier des GAFAM. Nicolas Kaiser-Brill explique en effet qu'aujourd'hui, Google se présente comme le partenaire des médias et met en scène une relation d'égal à égal, alors qu'il ne s'agit que de les diviser et d'acheter leur complaisance. Par exemple, chaque média doit candidater individuellement pour obtenir un subside de Google. Plus généralement, les GAFAM sont parvenus à monopoliser notre attention, une attention que détenaient auparavant les médias. Par conséquent, la production d'informations n'est plus l'apanage d'individus dotés de compétences intellectuelles particulières, mais est intégrée dans un système beaucoup plus global. Cela entraîne alors une abstraction du savoir et une externalisation des capacités cognitives des usagers. Ainsi, le phénomène de prolétarisation ici est double. Il touche la capacité des usagers à chercher, hiérarchiser et comprendre ce qui les intéresse, mais aussi la capacité des producteurs de contenu de choisir à qui s'adresser et sous quelle forme.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Lise et Eugénie sur Graphite. On vous laisse avec la musique Machine de Dany. Ce morceau date de 1966 et évoque justement l'aliénation de l'individu face à une société moderne et mécanisée qui déshumanise les êtres humains, les rend insensibles et dépendants. Bien sûr, à l'époque, Google n'existait pas encore, mais on peut transposer le message à nos machines numériques d'aujourd'hui.
Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Chaque fois que j'y mets 20 centimes, elle me répond merci bien. Il y a des boutons partout, les boutons, moi ça me rend dingue. Je les appuie tout d'un coup. Qu'un flingue, je me suis acheté une machine à tuer l'ennui. Mais la seule chose qui m'ennuie, c'est qu'elle me pique mes centimes. Je me suis acheté une machine à reculer le temps. Je la mets dans ma cuisine, pour les œufs c'est épatant. Il y a des lumières partout, le néon moi ça me rend dingue. Je les allume tout d'un coup. Sur le zinc, je me suis acheté une machine à hydroflexibus. Elle prévoit tout ce qu'on devine, y a un cerveau à rébus. Je me suis acheté une machine, je ne peux plus m'en séparer. Je me prends pour ma machine et je ne sais plus rêver. Mais je sais qu'un jour viendra, c'est sûr je prendrai le dingue. Je la jetterai loin de moi pour ne plus voir ce batrague. Je me suis acheté une machine qui ne fabrique rien. Un gadget, un coup de centime, sans doute j'en avais besoin. Sans doute j'en avais besoin. Sans doute j'en avais besoin.
De retour sur Graphite 94.9, on va passer à une petite série de questions juste après sur votre intervention très intéressante. Merci beaucoup pour ça, Lise et Eugénie. Juste avant, on va écouter un deuxième morceau avant de reprendre. C'est un morceau du groupe Baïkal qui s'appelle C carré. À tout à l'heure. La prevesa compa e l'altra umanità è fede nella campa, è fede nella campa e l'ora divinità, la u divinità la prevesa compa, la prevesa compa e l'altra umanità.
À travailler pour la gagner, c'est carré. Ok, il sera trop tard quand je serai vieux pour avoir des projets, c'est carré. Ok, travail n'est pas la santé quand tu bosses à l'usine, c'est carré. C'est carré. Ok, t'as fait de nuit, te fait perdre des années de ta Yves. Basique. Frère, l'avenir c'est pas fonder un foyer, payer un loyer, bailler. Travailler pour voyous, rouler sous les dettes, finir noyé, broyé. Tout ce qu'ils nous font voir, ce n'est que miroir de décennies noires où ils ont tout cramé, tout déraciné pour nous faire croire que le travail est la seule façon d'exister. Hey, tu penses pas qu'à d'autres choses, dériver sur d'autres choses. Arriver dans le dojo, tu flippes car tu vois qu'on a le sang chaud. Hey, frère, bien sûr qu'on fait ça sans showcase. Les prods, la coinchette, ça les a choqués. Toujours à l'heure, on fait pas semblant de jouer. On gagne pas, mais c'est pas chômé. Deux choses, exploitation ou participation. Moi, je vois le désastre ou bien l'élévation. Tu taf pour partir en vacances. Tu pars en vacances pour oublier le taf. Ni marxiste, ni manager. Ma force de travail ne te l'approprie pas. Je crois pas au capital, donc je ne prie pas. Maintenant, je veux voler, non plus payer le prix bas. Hey, Baïkal. Tu vis, tu taffes, tu crèves,
c'est carré.
Tu bosses, tu payes, tu restes,
c'est carré.
Tu vis, tu taffes, tu crèves,
c'est carré.
C'est carré. Ok, pas le temps de rien quand tu travailles 60 heures semaine, c'est carré. Ok, jusque dans ta vie privée, ouais, ton patron se mêle, c'est carré. Ok, rien à foutre, je veux pas monter dans l'ascenseur social, c'est carré,
c'est carré.
Ok, c'est par le boulot que commence un drame social.
Basique,
double paradoxe, pas dans les paraboles. Attends pas les intox, si t'as pas le pare-balle. État de travailleur, où y'a pas de travail. Vu comme accomplissement, mais qui nous fait du mal. Développement personnel, performance dans la vie. Performance dans la boîte, donc performance économique. Production, objectif, compétence, entreprise, qualité. Résultat, innovation et colonie. On va pas le nier, ça tombe toujours dans les mêmes paniers.
Toujours,
négocie même pas ses niettes. On est sympa mais pas nier. Devenir autonome ça veut rien dire. Et dans certains cas c'est même 10 fois pire. Avant d'arriver dans des bidonvilles, je veux qu'on s'empare de toutes les maisons vides. Frérot c'est carré, j'ai plus rien à carrer. Si je me tiens à carreau c'est que je me suis égaré. Je veux retrouver des familiarités de quartier. Des attachements à des façons de faire et de parler. Vie n'est pas ancrée, je te parle c'est en vrai. Je peux m'en aller et venir à mon gré. Loin de leur congrès, car c'est la concrète. Ma vie est concrète donc je referme l'onglet.
Et de retour sur Graphile 94.9, donc pour terminer cette émission avec vous, Eugénie et Lise. Alors bon, c'est des sujets très très denses et très très compliqués, donc on va terminer par quelques questions rapides. On a beaucoup en fait dans ces émissions parlé d'intelligence artificielle générative, hein, ChatGPT et compagnie. C'est un sujet qui est d'actualité, qui est revenu pas mal. Vous nous avez du coup parlé de prolétarisation et en montrant que c'était pas juste un simple lien de on est dépendant, mais vous avez évoqué des choses un peu plus profondes. Vous disiez la perte de sociabilité, les sociabilités traditionnelles, les savoir-faire, etc. Est-ce que vous auriez quelques idées de ce que ça fait en fait, de ce que ça produit d'avoir autant d'utilisations comme ça d'IA générative, que ce soit dans le travail, dans vos études, peut-être que vous avez croisé des gens qu'on utilise beaucoup, sans dire voilà c'est bien c'est mal, mais qu'est-ce que ça change concrètement?
Nous c'est vrai qu'en tant qu'étudiant ingénieur, on a souvent, autour de moi j'entends beaucoup des étudiants qui ont le réflexe d'aller sur ChatGPT. Moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a surtout pas accès au raisonnement, aux sources et aux calculs que produit l'algorithme derrière. Et du coup, ça ne nous rend pas du tout plus intelligents. En fait, on dispose juste des résultats qu'on ne comprend pas. On écrit ça après sur notre copie sans savoir d'où ça vient. Et donc, on perd la critique en fait, de se dire est-ce que c'est juste d'aller voir plus loin, même de reproduire du coup, le raisonnement plus tard de nous-mêmes. Parce que les IA ne nous donnent pas ces clés-là. Et puis après, on peut voir d'autres limites au niveau des réseaux sociaux. Quand on partage nos données, du coup, ça alimente des algorithmes qui, pareil, ne nous rend pas du tout plus intelligents ou plus critiques. Il y a un effet tunnel où on est réconforté dans des idées. Et donc, on perd en ouverture d'esprit aussi. Moi, c'est ce que j'aurais à dire là-dessus.
Merci beaucoup. Et peut-être que vous auriez des billes là-dessus, mais en fait, beaucoup de gens, vous, étudiants, étudiantes, beaucoup de profs aussi, sont capables de formuler des choses qui sont quand même assez critiques sur l'IA. Là, vous l'avez dit, cette question de ça ne nous rend pas plus critiques, ça ne nous rend pas plus intelligents. Et de votre point de vue, du coup, qu'est-ce qui fait que c'est aussi massivement utilisé, alors que tout un chacun même est capable de se rendre compte de certaines limites, et les gens ne sont pas du tout idiots, quoi, on est bien d'accord. Hein.
Tu veux répondre ou je...
Aujourd'hui, dans notre système capitaliste, on veut être de plus en plus productif, que ça soit de plus en plus rapide les tâches qu'on fait. Et ça peut nous pousser forcément, lorsqu'on a une tâche qui nous ennuie, qui est chronophage ou qui prend du temps, qui nous ennuie, bref. Et ça peut nous pousser à utiliser ChatGPT pour un peu nous faciliter la tâche et moins avoir à se creuser la tête. C'est peut-être passer notre temps à faire quelque chose qui nous semble plus productif.
Je peux rajouter des
trucs. Bien sûr.
Je voulais dire que aussi, je pense que l'usage massif des IA aujourd'hui, il est réconforté par le fait déjà que les IA sont très accessibles, c'est gratuit, c'est facile d'y aller, tout est fait pour que tout le monde y ait accès et que juste ça arrive dans les maisons de tout un chacun. Mais aussi, je pense qu'on est aussi une génération qui a grandi avec ces formats-là. Enfin, les IA, ça fait déjà un moment qu'elles sont dans notre quotidien. Et une fois qu'on est habitué à ça, en fait, ça devient très difficile d'en sortir. On avait Google mets-moi telle musique, et où on ne fait plus l'effort en fait de faire les choses, d'aller chercher les informations par soi-même. Et donc voilà, en fait, on est réconforté dans un système dans lequel on baigne depuis un moment sans forcément s'en rendre compte. Et je pense que là, ça fait quelques années qu'on commence à se dire est-ce que ça nous ferait pas des effets sur le cerveau d'utiliser toutes ces IA. Mais peut-être qu'on se pose la question un peu tard, je pense, une fois qu'on a bien intégré tout ça dans notre quotidien.
Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et puis en effet, je pense que culpabiliser les gens individuellement, c'est pas très malin, on va dire. Enfin, c'est comme, moi, ma génération, on utilise beaucoup les moteurs de recherche. C'est difficile pour moi d'imaginer me passer de moteur de recherche. Parce que c'est bien, c'est mal, c'est pas la question, mais c'est vrai que c'est difficile. Et du coup, ma dernière question, ce serait, vous avez décrit un système assez global, à la fois qu'englobe les médias traditionnels qui sont arrivés sur Internet, les nouvelles plateformes qui centralisent beaucoup de données, qui font des services de publicité ciblée qui sont très, très importants. Enfin, du coup, c'est des structures qui sont bien en place, disons. Et donc, parfois, avec les structures qui sont bien en place comme ça, c'est très difficile d'imaginer des alternatives. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement sans, du coup, tomber dans il faut se protéger soi-même, tout verrouiller. Mais bon, est-ce que, en dehors de ça, vous voyez peut-être des projets, des pistes, même un petit truc qui permettrait de faire autrement à l'avenir, même si on ne sait pas comment on va arriver là, mais est-ce que vous imaginez quelque chose qui ne serait pas moins sujet à ces problématiques ?
Je pense déjà qu'il faudrait rendre... gagner en transparence sur exactement ce que les plateformes prennent de nos données. Je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui, par exemple, si je me connecte sur Instagram, de dire je veux pas que vous preniez telle information, c'est un labyrinthe à faire dans les paramètres. Il faudrait déjà que ce soit beaucoup plus simple, même de quitter Instagram, de supprimer ses comptes. C'est quelque chose qui est un peu dissimulé, même carrément dissimulé sur les plateformes. Après, je trouve que déjà, à partir du moment où on continuera à faire de la recherche en captologie dans les grandes universités, c'est né à Stanford, cette science-là de comprendre les comportements humains pour mieux les attendrir, les capter l'attention. Tant qu'on fera de la recherche là-dessus pour améliorer les algorithmes, en fait, je pense qu'il y a un problème. Il faudrait mieux financer, la recherche sur la douleur menstruelle des femmes ou autre chose. Mais voilà, tant que tout ça, ces mécanismes, ils seront présents, ça sera compliqué. Après, il y a des plateformes qui existent qui prennent pas nos données. Moi, j'aurais tendance à vouloir dire que tout le monde fait pareil à partir du moment où on ne prend pas nos données, mais après c'est vrai que on garde plus le capitalisme, quoi, parce que on supprime les algorithmes qui permettent de cibler les publicités. Donc comment les plateformes gagnent de l'argent, ça je sais pas.
Ouais. En même temps, qui sait, hein, on pourrait en parler des heures, mais c'est déjà des super éléments de réponse, et j'espère que ça donnera du grain à moudre aux personnes qui nous écoutent. Peut-être aussi un petit point pour ajouter un autre grain. Peut-être que aussi il y a une question d'échelle sur laquelle il faut réfléchir, c'est que peut-être que des très très grandes structures, c'est difficile de pas avoir des effets comme ça avec de concentration de pouvoir. Donc est-ce que voilà, au même titre que ça c'est ma petite opinion personnelle, au même titre que on envisage parfois des maraîchers par rapport à des grands supermarchés, est-ce qu'on pourrait avoir le même genre de réflexion avec le numérique? Je pense qu'on va vous laisser là-dessus. Merci beaucoup Lise et Eugénie d'avoir fait cette dernière émission de la saison. Et pour toutes les personnes du coup qui sont un peu intéressées par ces questions, vous pouvez retrouver en fait l'intégralité des contenus des cours sur librecours.net. L'UV s'appelait WE01, enfin s'appelle toujours. Bon après-midi, à la prochaine.